Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous.
C'est votre journal des médias, Cyril. Qu'avez-vous au sommaire ce matin ?
Le temps passe et passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps se serait si vite écoulé ? Alors, eh bien quoi ? On fait le bilan calmement. Et ce matin, on parle aussi de BFM TV, d'un doc poignant sur France 2, de Julien Lepers qui perd son procès et des fake news toujours aussi puissantes sur les réseaux sociaux.
Mais on commence évidemment par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télé ?
En tête hier soir, Joséphine Sarrondy sur TF1. Il y avait plus de 4 millions de personnes pour voir le ventre de Marie-Lou Berry s'arrondir. La série Mallorca sur France 2 est deuxième, loin derrière, avec près de 2 400 000 téléspectateurs. Enfin, E égale M6 est sur la troisième marche du podium, juste derrière France 2, puisqu'à peine 84 000 téléspectateurs séparent les deux chaînes. Il y avait 2 313 000 personnes devant le nouveau numéro du magazine scientifique de la 6.
Culture Média.
Et on commence ce journal des médias avec un traditionnel bilan de fin de saison. Qui sont les grands gagnants de cette année télé côté audience ?
Alors évidemment, sur la performance pure, une chaîne continue de dominer de la tête et des épaules. Évidemment, je vous parle de TF1 qui achève sa saison à 19,4% de part d'audience. C'est 5,5 points de plus que son premier concurrent France 2. Mais les deux chaînes sont dans des dynamiques différentes. TF1 a perdu 0,4 points par rapport à la saison précédente, là où la 2 en a gagné 0,3. Et la dynamique est identique quand on regarde les deux groupes, c'est-à-dire en incluant toutes les chaînes de chaque côté. Le groupe TF1 a perdu 0,3 points en une saison, là où France Télévisions en a gagné 0,2, ce qui fait du groupe public le premier groupe audiovisuel de France. Il y a une autre chaîne qui a réussi une très belle saison, c'est Arte. Évidemment, ses scores sont très loin des leaders, mais entre la saison 2018-2019 et la saison 2019-2020 qui s'achève donc, la chaîne a gagné 0,3 points de part d'audience. Arte a même terminé l'année par un mois de juin historique à 3% de part d'audience, de quoi saluer dignement le départ de sa présidente, Véronique Kella, qui sera remplacée la semaine prochaine par Bruno Patino.
Et puis Cyril, dans ce match, dans le match très intense des chaînes d'infos en continu, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette saison ?
Pour sa première saison à la tête de BFM, Marc-Olivier Fogiel peut être satisfait malgré les difficultés actuelles. Sa chaîne garde le leadership avec 2,7% de part d'audience. C'est même un chouïa mieux que la saison précédente. LCI est deuxième devant CNews et France Info ferme la marche. Mais vous le disiez Philippe, la compétition est forte entre ces quatre chaînes et surtout d'ailleurs entre LCI et CNews. La chaîne du groupe Canal termine la saison sur les chapeaux de roue. CNews a dépassé LCI au mois de juin. Elle a gagné 0,8 points de part d'audience par rapport à juin 2019. C'est la plus forte progression du paysage audiovisuel français. C'est un record également historique, en tout cas depuis que CNews s'appelle CNews.
Oui, depuis février 2017, puisqu'à la base c'était iTélé. On reste du côté des chaînes d'infos avec un nouvel épisode du feuilleton BFM et de la crise sociale qui secoue le groupe Next Radio TV.
Pas d'avancée ce matin du côté des négociations entre la direction et les représentants du personnel, mais je voulais revenir sur un article de Capital dont je vous ai parlé hier. Je vous fais un rapide résumé. Cette enquête révèle que Patrick Drahi a rapatrié la filiale Altice TV, largement déficitaire, au sein de Next Radio TV, qui lui affiche des comptes positifs, et c'est ce groupe qui abrite BFM, RMC, etc. Et résultat de cette opération, les comptes de Next Radio TV seraient plombés et permettraient de justifier le plan de départ, même si, bien sûr, personne ne le présentera officiellement de cette manière. Et bien, suite à notre journal, hier, Altice m'a contacté pour démentir la manière dont Capital présente les choses. Oui, Altice TV est ces pertes font bien partie de Next Radio TV, mais ce n'est pas pour autant que les comptes vont être mélangés. Le porte-parole du groupe m'assure que lors de la prochaine publication des comptes, il y aura bien des lignes distinctes entre d'un côté les activités médias, qui gagnent de l'argent donc, et de l'autre Altice TV et ses lourdes pertes. Les droits de perte, pas de mélange des genres, donc m'assure-t-on, en tout cas du côté de Next Radio TV, qui a présenté, je vous le rappelle, un plan de départ volontaire qui doit concerner 330 salariés.
On va parler programme ce soir, le magazine Infrarouge sur France 2 s'intéresse à des ouvriers de l'ombre.
Avec un titre évocateur, les damnés des ouvriers en abattoir. La réalisatrice Anne-Sophie Reinhardt s'est intéressée aux personnes qui travaillent dans les abattoirs, un travail méconnu, un métier de l'ombre mortifère et d'une violence inouïe pour celles et ceux qui le pratiquent. C'est un film fort et étonnant que nous propose France 2 ce soir. Dénué de sensationnalisme, loin de l'univers clos des abattoirs, la réalisatrice a même fait un choix narratif extrêmement fort, tourner son film et recueillir ses témoignages dans une forêt. Anne-Sophie Reinhardt nous explique les raisons de ce choix.
Ce qui m'intéressait, c'était pas faire un film sur les troubles musculo-squelettiques, c'est-à-dire le travail peut casser le corps, mais comment on le vit de l'intérieur, des émotions, ce qu'il faut mettre en place pour tenir. Et ce n'est qu'en s'éloignant de l'abattoir qu'on peut y repenser, puisque le principe même du travail en abattoir pour tenir est de porter ce qu'ils appellent une carapace, de se protéger. Je voulais qu'on puisse s'identifier à eux. Il se trouve que en cherchant un lieu représente finalement cet endroit d'isolement dans lequel ils sont, d'isolement mental, émotionnel, j'ai trouvé que la forêt était un espace symbolique qui le permettait, autant pour les ouvriers que pour le spectateur. C'est-à-dire qu'on s'éloigne du front, on s'éloigne de la zone et on raconte.
On le sait, ce qui se passe dans les abattoirs peut être extrêmement violent et la réalisatrice a fait le choix de ne justement montrer aucune image de l'abattage des animaux. Elle explique que ces images sont tellement sidérantes que cela aurait forcément pu affaiblir la parole des témoins. Et c'est bien de ces damnés dont Anne-Sophie Reinhardt voulait parler, des ouvriers que les autres ne veulent pas voir. La réalisatrice nous parle de celles et ceux qui ont témoigné devant sa caméra.
Quand on regarde des images d'abattoirs qui sont proprement sidérantes pour quelqu'un qui n'y a jamais mis les pieds, comme pour n'importe qui, en fait, ils semblent être indifférents. Il y a une apparente neutralité, puisqu'on les voit travailler, faire des gestes. On les voit évidemment de dos, on voit des silhouettes blanches, et on se dit que ces gens-là sont forcément différents de nous, puisque nous, si on prend en compte la totalité de l'image, c'est-à-dire l'univers dans lequel ils gravitent et ce qu'ils sont en train de faire, on se dit, mais c'est pas possible, je pourrais pas le faire, moi, sans m'effondrer. On a tendance aussi à penser que ce sont des gens différents de nous, c'est-à-dire qu'il y a comme ça des préjugés, des stéréotypes, des étiquettes qu'on va poser sur des groupes humains, et en l'occurrence sur eux, de penser que ce sont des gens qui seraient des brutes épaisses, qui auraient un degré de sensibilité inférieur à la majorité de la communauté humaine. Or que pas du tout, ce sont des hommes et des femmes qui débarquent du jour au lendemain. C'est l'histoire de la misère, c'est l'histoire de devoir très rapidement trouver les moyens de subvenir à ses besoins. Ce sont des gens qui se retrouvent du jour au lendemain projetés dans cet univers sidérant. Quand on vient pour la première fois, on est une dizaine de personnes de la boîte d'intérim qui est envoyée pour une espèce de, entre guillemets, visite, même pas au bout d'une heure, 8 sur 10 seront déjà partis. Donc c'est leur vérité, c'est la vérité ouvrière, c'est de se ressouvenir que ce sont d'abord des hommes et des femmes et que ça pourrait être nous.
Le film Les damnés des ouvriers en abattoir a obtenu le prix de l'originalité du sujet au festival de Luchon qui s'est déroulé en février dernier. Une distinction franchement amplement méritée. Le film est à voir ce soir sur France 2 à 22h50 et si vous voulez vous passer de la programmation linéaire, vous pouvez déjà le trouver sur la plateforme France.tv.
Julien Lepers a perdu une première manche de sa bataille juridique après son éviction de Question pour un champion il y a 4 ans.
Le Parisien nous apprend que l'ancien animateur a été débouté de presque toutes ses demandes d'indemnisation, des demandes qui dépassaient les 3 400 000 euros. Julien Lepers a toutefois obtenu le paiement d'un solde de tout compte de 800 000 euros de la part de son ex-employeur, Fremantle, c'est le producteur de Question pour un champion, un montant qui correspond à des indemnités de licenciement après 28 ans en tant que salarié. Selon Le Parisien, Julien Lepers va faire appel de ce jugement.
Enfin, pour terminer ce journal, les fake news ont encore, hélas, le vent en poupe.
C'est ce que révèle une étude de l'Oxford Internet Institute et ça fait froid dans le dos. En France et en Allemagne, les fausses informations propagées par des médias russes et chinois font plus d'audience sur les réseaux sociaux que les informations fiables et vérifiées mises en ligne par Le Monde ou Der Spiegel chez nos voisins allemands. Pour arriver à ce constat, l'étude a examiné durant 3 semaines les contenus générés par les principaux médias russes et chinois qui sont étroitement liés au pouvoir et le résultat est sans appel. Quand un article du Monde est partagé, commenté ou liké, c'est ce qu'on appelle le taux d'engagement, 100 fois ceux de RT ou de Sputnik, des médias russes, sont partagés, commentés ou likés plus de 500 fois. Un rapport donc de 1 à 5, et c'est évidemment considérable, et cela explique l'immense difficulté à lutter contre la désinformation en ligne, même si, attention, l'étude fait bien attention à ne pas dire que ces médias propagent des fausses informations. Le chercheur en charge de cette étude rappelle d'ailleurs que l'essentiel des contenus repose bien sur des faits, mais que l'ambition des médias russes est de discréditer les pays démocratiques en politisant leurs informations. Une version que conteste évidemment vigoureusement la chaîne RT France, qui assure avoir couvert la crise du coronavirus comme les autres médias.
Merci beaucoup Cyril Carrière, on vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias.